les heures de silence résigné de sa mère, la violence de son père. Et puis il a accepté le divorce, la séparation. Son père qu'il verrait un week-end sur deux et pendant les vacances. Son père qui resterait à Paris pendant que Sibyl et lui iraient emménager dans un appartement à Bordeaux, dans cette rue ironiquement appelée rue du Soleil et qui est si peu large que le soleil semble ne jamais y glisser un rayon. En raccrochant, elle se demande si elle a bien fait. Revoir Benoît. La dernière fois, c'était au moment où l'on s'était séparé à la sortie du tribunal, et ça n'avait pas été facile. Non pas que Sibyl regrette sa décision de quitter Benoît, pas après ce qui était arrivé, et qu'aucune femme ou qu'aucun homme n'aurait pu accepter, ça c'était impossible, elle n'avait jamais de regrets sur ça, et même, parfois, la colère, la stupeur, la prenait comment un homme pouvait avoir fait ça, et continuer à vivre si tranquillement. Ce qui avait été difficile, ça avait été de débarquer avec son fils dans une ville où elle croyait connaître des gens avant de s'apercevoir que c'était plutôt son mari qu'il connaissait, pas elle. Pour eux, elle était une femme fragile et dépressive, gentille aussi, qui travaillait dans un hôpital, mais n'avait jamais rien réussi des grandes ambitions qu'elle avait eues. Elle avait un peu tout raté, non? Lorsqu'ils sortent de la gendarmerie, une heure a passé. On a reçu Sibyl. On lui a raconté ce qui était arrivé pendant la nuit. Elle pourrait être en colère, elle l'est. Mais elle est d'abord concernée, comme si sa colère était enterrée sous l'affliction et le découragement. Elle ne sait pas ce que c'est de passer une nuit dans une cellule, la couverture rêche, les lacets et la ceinture qu'on a enlevée, l'impression des pieds qui flottent dans les chaussures et le pantalon qui tient lâchement autour de la taille, un compagnon de cellule qui veut absolument raconter son histoire et infeste tout l'espace de son haleine alcoolisée. Le sommeil fragile qui ne sera suspendu que parce qu'un torticolis atroce vous en fait sortir. Non, elle ne sait pas tout ça. Elle sait juste son fils qui apparaît devant elle, à qui elle ne se sent pas capable de dire un mot. Une grande bouffée d'air marin les accueille. Elle marche devant lui, sans se retourner, et ouvre les portières. Elle s'immobilise. Samuel s'est arrêté lui aussi, quelques mètres derrière elle. Il attend quelques secondes, comme s'il hésitait, qu'il réfléchissait, et plutôt que de faire le tour pour venir s'asseoir à côté de sa mère, il monte derrière elle et ferme la portière. Elle a juste le temps de penser « Oui, c'est ça, je vais faire le taxi de monsieur. » Mais elle ne dit rien. Et lui attend. Il sait que ça va venir. Il l'entend déjà, il la connaît suffisamment pour savoir que ça va venir. Sa violence quand elle va éclater de rire, les mots cinglants, le regard assassin. Il les attend. Mais c'est pour ça qu'il ne veut pas s'asseoir à côté d'elle et qu'il choisit de s'installer sur la banquette arrière, pour pouvoir fermer les yeux, serrer les mâchoires, se dire qu'il va regarder dehors et se noyer dans le défilement du paysage, plutôt que d'écouter sa mère ou voir ses doigts qui tambourinent sur le volant, ses mouvements fébriles, la bouche, les lèvres pincées, ses yeux qui se plissent, sa façon trop lourde de respirer, de faire semblant peut-être de dédramatiser et de sourire, de dire « Allez, viens, on va prendre un petit déjeuner. » Bientôt, il somnole. Il oublie presque sa mère. Et il essaie de résister au sommeil. Ses paupières trop lourdes tombent. Il lutte pour les maintenir ouvertes et laisser la lumière du matin entrer dans ses yeux. Les brûler, les tenir éveillés. Il se redresse et puis retombe. La nuque roule. La tête penche sur le haut du dossier. Il est en train de s'endormir et bientôt son corps se relâche entièrement, quand, soudain, la voix de sa mère le réveille. Il se dresse. Ses yeux s'ouvrent grands. Sa mère, dans le rétroviseur intérieur, juste au-dessus du sapin en carton qui diffuse dans la voiture une vague odeur de résineux qui camoufle à peine le tabac froid. « Samuel, je te parle. Tu crois que je ne vais rien dire? Tu crois qu'il ne va rien se passer? Tu crois que tu peux tout te permettre? Maintenant, mon bébé va pouvoir faire sa sieste tranquillement et je vais aller te border dans ton lit? Tu crois que ça va aller où, cette histoire? Tu sais ce qu'ils m'ont dit, les flics? Pourquoi tu ne m'as pas laissé le message? C'était bon de savoir que j'étais comme une conne à t'attendre? Je peux savoir, non? Comment tu t'es retrouvé dans cette histoire? C'est qui tes copains? J'attends que tu me parles. Je ne lâcherai pas. Je ne vais pas lâcher. J'ai appelé ton père. Je veux qu'il vienne. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Réponds-moi quand je te parle. Regarde-moi. C'est tes copains, ces mecs-là? Tu trouves ça normal d'agresser une fille? C'est qu'une pute. Qu'est-ce que tu dis? Une pute. C'est toi, ça suffit. Je m'en fous. De quoi? Tout. Les flics, toi.